Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Viens, parlons, osons rêver. C'est le message que le pape François nous adresse à chacun en cette rentrée 2021. Viens, parlons, osons rêver. C'est aussi le sous-titre de Un temps pour changer, ce livre d'entretien du pape François, avec un journaliste anglais publié à l'occasion de la pandémie de la Covid. Alors en cette rentrée, pour nous aider à relever la tête, à prendre de la hauteur sur la crise sanitaire actuelle, pour nous aider à comprendre ce que nous vivons et voir comment Dieu nous rejoint et travaille le monde, nous avons décidé de parcourir ensemble ce texte au long de cette année. Un livre d'entretien avec le pape au ton très personnel, un livre dans lequel le pape tutoie son lecteur, le livre, au dire de certains, du directeur spirituel du monde. Lecture de Un temps pour changer, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin, avec comme invité Arnaud Franck, qui est prêtre, vicaire dans le secteur de Saint-Orens et de Castanet en région toulousaine, et délégué diocésain aux relations avec le judaïsme. Bonjour.
Bonjour.
Alors merci d'inaugurer le bal, ai-je envie de dire, puisque comme chaque année, on a choisi un texte du pape François qu'on va parcourir tout au long de l'année. Il va donc y avoir une dizaine d'émissions, avec des émissions qui seront globalement diffusées, donc le deuxième ou troisième mercredi de chaque mois. Un temps pour changer, c'est donc du pape François avec ce sous-titre « Viens, parlons, osons rêver », paru aux éditions Flammarion. C'est un livre donc qui a été coécrit avec un journaliste anglais, on peut le dire au début, qui s'appelle Austin Everegg, j'espère que je prononce correctement, journaliste britannique avec le pape François, avec lequel le pape François s'est entretenu de manière, on va dire, très informelle, et donc qui a été écrit à deux mains. Arnaud Franck, ça vous semble être une bonne idée que de parcourir ensemble ce livre, et il faut que chacun le lise et se l'approprie, ce bouquin?
Oui, d'autant plus qu'il est très accessible, comme vous le disiez dans l'introduction. Il nous tutoie, on dirait que c'est nous qui sommes en conversation avec le pape. Et puis le sujet porte sur la crise que nous traversons et les défis se font jour pour nous. Donc c'est très accessible et le sujet nous concerne. Donc c'est bon de pouvoir se l'approprier.
Alors vous, quelle a été votre réaction à la lecture de cet ouvrage quand vous l'avez eu entre les mains, quand on vous a suggéré de le lire, est-ce que ça vous a donné, comme à certains, l'impression tout d'un coup de voir de la lumière au bout du tunnel, d'arriver un peu à trouver une intelligence plus profonde de la situation et de la crise actuelle? Est-ce que ça a été pour vous une bouffée d'oxygène? Quelles ont été vos impressions?
Oui, le titre déjà m'a attiré, Un temps pour changer. Je trouve qu'il est très significatif. Il contient tout le sens que le pape François donne à ce que nous vivons. Non pas un temps défaitiste, même s'il y a des épreuves. J'ai trouvé, comme dans la lecture de Laudato Si, que le pape posait un regard très réaliste et en même temps pas du tout défaitiste. Au contraire, on sort de ce livre avec un désir de changer, ce qui rejoint aussi l'appel de l'Évangile quand Jésus nous appelle à la conversion. Il y a devant nous un temps, donc on n'est pas pris par le temps, mais il y a devant nous un temps et peut-être pour changer. Donc c'est presque une, j'allais dire, une bénédiction. En tout cas, le pape, ouvre des chemins. Il pointe en tout cas certaines directions, et c'est bon parce qu'on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on est et où on va. Et avec délicatesse et en même temps détermination, il montre quelques chemins que ces émissions va parcourir.
Alors on peut commencer par le titre du livre, parce qu'il y a une traduction française un peu originale et un peu décalée avec le titre initial, qui normalement parle davantage de rêve.
« Let us dream, the road for the future ». Donc, rêvons.
C'est presque du Martin Luther King. C'est...
Oui, j'ai un rêve, rêvons, une route pour l'avenir, dont même le titre porte l'avenir. Donc, c'est ouvert dans une espérance. Le pape utilise beaucoup le verbe « rêver » depuis très longtemps. Ça peut interpeller. En tout cas, c'est vrai qu'on rêve la nuit et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on traverse une nuit, alors avec des cauchemars, ça c'est sûr, et puis ça continue. Mais c'est intéressant aussi que le pape appelle au rêve et de voir aussi que dans la tradition spirituelle, chrétienne, biblique, il y a de grands rêveurs qui ont été peut-être moqués et qui pourtant ont changé le cours de l'histoire.
Par exemple ?
Eh bien, nous sommes dans l'année encore Saint-Joseph. Alors, nous pensons à l'époux de Marie, mais il faut surtout penser à son saint patron qui est Joseph, qui occupe l'histoire de la Genèse, les grands derniers chapitres de la Genèse, qui avait des songes, qui rêvait, et que ses frères n'ont pas accepté, et ses frères l'ont moqué et l'ont livré. Ils n'ont pas accepté ses rêves. Ce qui a fait que Joseph a été déporté en Égypte. Et là, il a continué à avoir des rêves. Or, il se trouve que l'Égypte traversait une famine et que le roi avait lui-même des rêves, mais qu'il n'arrivait pas à interpréter. Et au bout d'un certain temps, on appelle Joseph, qui lui arrive à interpréter les rêves et qui pose un diagnostic qui permet de sauver la situation. Puisque Joseph va trouver dans les rêves la solution pour se sortir d'affaires par rapport à la pandémie, qu'il faut prendre des réserves sur les années de récolte pour traverser la période de sécheresse. Donc c'est assez intéressant de voir que, et puis c'est ce qui permettra aussi aux frères de Joseph de ne pas mourir dans la famine. Donc finalement, on voit à travers l'histoire de Joseph un homme qui reçoit des rêves, qui est moqué par les autres, mais qui trouve en eux la solution et qui même sauve ceux qui l'ont maltraité et pourchassé. Donc faisons attention à nos rêves et n'ayons pas peur même de les vivre dans la nuit.
On dit que Dieu parle aussi à travers nos grands désirs, donc que nos grands désirs peuvent devenir aussi des rêves. Alors si on commence par le prologue, donc avec vous, je le précise pour les auditeurs, on va faire une présentation générale de cet ouvrage, et puis après on creusera avec d'autres intervenants au long de cette année. On parcourra donc le prologue, l'épilogue et la postface, qui est du journaliste cité. Et puis on s'arrêtera donc sur les trois grands chapitres. On peut peut-être dire, allez, avant de se lancer quand même dans le prologue, la manière dont c'est construit. Certains disent qu'il n'y a pas plus ignatien comme livre. Ignatien, c'est donc la spiritualité jésuite dont il est, puisqu'il est, pour rappel, le pape François est jésuite. Trois parties, voir, choisir, agir.
Oui, et dans la postface, celui qui mène l'entretien avec le pape précise que les trois verbes voulus par François, c'était contempler, discerner, et proposer. Et c'est intéressant de voir qu'il propose d'abord un regard contemplatif, et ce qui permet d'avoir un regard assez, prendre un peu de hauteur et de profondeur à ce que l'on vit, parce qu'on a parfois tendance à rester à la surface des choses.
Un regard contemplatif, c'est quoi, juste ?
De chercher la profondeur de notre réalité. On vit quelque chose, il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, et on n'a pas forcément la hauteur ni la profondeur que nous donne aussi la foi dans le Christ. Donc de contempler un peu comme un témoin. Jésus nous appelle à être ses témoins, mais davantage comme dans un mariage, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe avant d'apporter peut-être des solutions, mais de réussir à poser un regard juste sur ce qui se passe, y compris dans sa dimension spirituelle, humaine. Donc la première partie, le pape s'exerce à poser un regard de contemplation, de regarder le réel, de ne pas avoir peur de s'y confronter.
Contempler, discerner.
Discerner, on y reviendra.
Qui dans l'ouvrage donc est choisir.
Et qui est au cœur du livre d'entretien. Et c'est vrai qu'il y a la grâce, une des grâces déposées dans le pape François, qui est de tradition ignatienne. Alors le discernement n'est pas réservé exclusivement à cette tradition, mais mine de rien, à travers l'expérience d'Ignace, on a pu repérer les mouvements de l'esprit, du bon esprit, du mauvais esprit. Et la crise que nous traversons démasque toutes les autres crises, et qui est celle du sens. Donc C'est bon d'avoir au cœur de ce livre des petites billes, et très simples, très pratiques, pour discerner ce qui me conduit à la vie, y compris dans les épreuves, parce que même lorsqu'on traverse des tempêtes, bah, y a des lumières qui surgissent et qui peuvent nous aider à mieux avancer. Et je trouve que c'est aussi un grand intérêt du livre. Il montre que l'épreuve fait partie de la vie, qu'il ne faut pas avoir peur de la traverser et qu'elle peut nous amener plus loin, on peut sortir meilleur
ou pire.
Et donc, c'est là le discernement.
Dans le prologue. En tout cas, ce qu'on entend aussi dans vos propos, hein, en filigrane, donc je le reprécise pour ceux qui n'auraient pas parcouru l'ouvrage, c'est que c'est ce qui fait que j'ai cité cette citation qui est donnée par le journaliste anglais, directeur spirituel du Monde, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est une vue, on va dire, macro, et en même temps, ça descend dans la vie de chacun. Voilà, c'est là un peu la grande force de cet ouvrage. Et alors, si on s'arrête sur le troisième verbe, donc proposer, qui dans l'ouvrage donc, est agir, voir, choisir, agir.
J'aime beaucoup ce verbe proposer, qui est même un terme évangélique. Malheureusement, la traduction ne nous donne pas ce bon terme. On le connaît, ce verbe, dans « il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie ». En fait, le grec dit « proposer ». Donc toute la dynamique de Jésus et donc des chrétiens, c'est même pas de donner, c'est de proposer. Voilà. Donc après avoir vu le réel, après y avoir repéré les traces de l'esprit, après avoir aussi discerné aussi le signe du mauvais esprit qui peut nous conduire à la mort, le pape propose des voies pour justement sortir meilleur de la crise. Et entre autres, de pouvoir resserrer ces liens, renouer, on peut dire, avec le nous d'un peuple, en recueillant la mémoire des anciens, la mémoire d'un peuple aussi, de proposer aussi des actions concrètes, comme la crise du Covid que nous avons traversée a pu mettre au jour des initiatives, même toutes humbles, mais qui permettent de ne pas passer à côté de la crise, de voir que la crise nous permet de mieux voir peut-être certaines choses comme essentielles. On a beaucoup parlé des essentiels. Donc proposer des pistes concrètes pour privilégier ce qui est essentiel dans nos vies.
Alors ce prologue, donc, j'en citerai juste 2-3 passages sur les débuts et puis on va commencer à le parcourir ensemble. Je crois que les temps que nous vivons sont décisifs, dit le pape François, qui parle de temps de crise. Entrer en crise, c'est passer, c'est être passé au crible. Et puis d'autres expressions du même genre autour de la crise. Bref, il n'y a pas de surprise. Oui, je retrouve le passage. Dans une crise, notre fonctionnalisme est ébranlé. Il nous faut revoir et modifier nos rôles, nos habitudes afin d'en sortir meilleur. Et puis, halte au défaitisme, ce passage. Certains répondent à la souffrance amenée par une crise, par un haussement d'épaule. Ils disent « Dieu a fait le monde comme ça et c'est comme ça ». Mais une telle réponse interprète à tort la création de Dieu comme statique, alors qu'il s'agit d'un processus dynamique. Le monde est en continuelle création, dit le pape François. Qu'est-ce qui vous a arrêté dans ce prologue, hormis ce volet sur la crise et ça, sur l'opportunité qu'elle peut représenter?
J'ai repensé à cet événement qui a marqué l'Église, mais aussi le monde. Le 27 mars 2020, le pape François était tout seul sur la place Saint-Pierre. C'était pendant le premier confinement.
D'ailleurs, le journaliste en parle, je crois.
Oui, parce que c'est un petit peu le déclencheur de ce livre d'entretien. Ça nous a tous émus de voir le pape présent, tout seul, mais présent. Et méditant.
Présent place Saint-Pierre, donc face à une place Saint-Pierre vide.
Vide, et en même temps, il était face au monde, quoi. Et il a médité un passage de l'Évangile, qui est un passage de crise. Lorsque Jésus est dans la barque avec ses disciples, il est en train de dormir, or il y a la tempête. Et dans cette méditation qui est très belle, le pape avait dit que la crise démasque notre vulnérabilité. Et c'est ce qu'il dit dans le prologue. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il ne s'arrête pas juste à ce problème lié au virus qui attaque nos poumons. Il montre bien que la crise et les ébranlements nous permettent d'être démasqué, paradoxalement, et de voir quelles sont les crises. La crise des migrants, la crise d'hommes et de femmes qui encore meurent de faim, le changement climatique. Il parle aussi du virus de l'indifférence, qui est un thème très profond, de voir que...
Et très récurrent chez lui.
Et très récurrent. Il y a beaucoup de communautarisme, mais il n'y a plus l'esprit d'une communauté humaine. Or, on voit bien que cette crise, elle nous touche tous.
Crise de la fraternité, il cite aussi donc, les crises économiques et crise d'un système économique, les multiples guerres, hein, avec cette expression qui ne reprend pas dans cet ouvrage, hein, mais la Troisième Guerre mondiale par morceaux, l'armement.
Ouais.
Hein, j'ai trouvé juste un chiffre pour illustrer ses propos sur l'armement. 37% d'augmentation depuis 10 ans des effectifs militaires et paramilitaires à travers le monde. Et selon les spécialistes, en fait, le monde n'a jamais été dans une telle phase d'armement ou de réarmement. On atteint les mêmes niveaux dans cette course folle qu'au moment de la guerre froide. Dans cette introduction, allez, un dernier mot quand même avant de... dans ce prologue, même si on s'y arrêtera encore un peu après, avant de faire une pause. Il y a donc la partie constat, la nécessité du rêve, et puis le pape François esquisse déjà quand même quelques pistes. Il parle de la fraternité, et puis, même si vous pourrez revenir un petit peu en arrière, il finit en parlant de la miséricorde. Lui aussi, on a l'impression qu'il fait un rêve à la fin de ce prologue. « Je vois un débordement de miséricorde se déverser parmi nous. » Comme si le pape François voyait plus loin que nous, ou autre chose. Comme s'il voyait arriver en fait, une grande vague, on a l'impression, au milieu de tout ça.
Oui, et ce qui peut sauter aux yeux dans la première partie, en tout cas dans le prologue, c'est que Dieu paraît absent. Enfin, il commence sur la crise comme étape normale dans une croissance humaine.
Même s'il cite l'écriture quand même. Hein, mais...
Oui, mais il vient un peu en dernier, Dieu. Et on a envie de lui dire, mais et Dieu dans tout ça? Et en fait, c'est assez, j'allais dire, malin, mais c'est assez pertinent parce qu'il ne tombe pas dans le piège de savoir si Dieu, par exemple, nous envoie cette épreuve. Mais à la fin, il laisse entendre que Dieu est présent dans l'épreuve et que même dans un creux, eh bien, quand on voit l'évangile, il en fait jaillir une source. Dans le mot débordement, qui revient sans arrêt aussi dans le livre, il y a le mot bord. Et moi, j'aime bien voir Jésus un peu borderline. En tout cas, c'est ce qu'il montre dans l'évangile, qu'il est au bord, il est aux périphéries. Parce que c'est là qu'est la vie. Et que la miséricorde peut se faire chair. Il l'évoque aussi dans le prologue, la parabole du bon samaritain qui, pour lui, est cette parabole qui doit influencer l'Église dans le temps qui est le nôtre, où la question n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais moi, de qui puis-je me rapprocher ? Et que si je me rapproche de ceux qui sont au bord du chemin, qui sont, et donc du coup de toucher du doigt la chair de la souffrance, alors là il y a la vie, il y a un appel à la vie. Et c'est toute cette théologie aussi qu'il puise de l'évangile, que la vie, elle est au bord, elle est dans ceux qui peut-être en crèvent, et qu'une société, un peuple qui remet au centre ceux qui sont au bord et ceux qui sont assoiffés de vie, mystérieusement, ça rejaillit.
Allez, on fait une première pause et puis on vous retrouve pour parcourir cet ouvrage, Un temps pour changer, du pape François, paru aux éditions Flammarion.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lecture de Un temps pour changer, c'est donc le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Introduction à cette lecture suivie et commentaire que l'on va faire donc de cet ouvrage du pape François, coécrit avec un journaliste anglais qui est paru au moment de, on va dire, au cœur de la pandémie, c'était en 2020. Mais comme on n'en est pas sorti et que les questions qu'elle nous pose sont toujours d'actualité, on s'est dit qu'il était bon de parcourir ce livre. Donc après le prologue, il y a une première partie, jusque-là pas de surprise. On en a parlé, donc trois parties, voir. Alors comme il y a deux vocabulaires, voir, choisir, agir. Voir, c'est un peu aussi comme dans Laudato si, hein, on commence par regarder la situation telle qu'elle est, même si le pape François ne se limite pas à ça. Ça n'empêche pas, on va dire, quelques réflexions personnelles. Il y a une expression, moi, qui m'a frappé, sur laquelle je voulais que vous vous arrêtiez, qui est, le pape François dit de cette crise, c'est notre moment de Noé. Alors, pour un pape, même s'il a l'art de la formule, on peut imaginer quand même qu'il sait la profondeur de cette référence. Est-ce que ça vous a frappé et qu'est-ce que vous en comprenez ?
Oui, c'est très beau et même peut-être provocateur, parce que quand même, c'est l'une des premières histoires de confinement, avec l'arche et toutes les familles qui sont concentrées.
Et puis, il n'y a pas grand monde qui en est sorti, qui s'en soit sorti en l'occurrence.
C'est quand même beau et bon de pouvoir voir dans la Bible des histoires qui nous rejoignent. Mais c'est aussi beaucoup plus profond que ça. On voit la désolation de Dieu qui n'a pas créé le monde pour la méchanceté. C'est une histoire qui nous rappelle qu'il y a un espoir, même avec un homme, puisque Noé va être celui qui permettra la construction de l'arche, qui, pour le pape François, est l'arche des liens. Parce que cette crise nous a peut-être montré la limite de ce mythe de l'autosuffisance.
Alors je le cite, « La Covid-19 est notre moment de Noé, à condition que nous puissions trouver notre chemin vers l'arche des liens qui nous unissent, l'arche de l'amour et d'une appartenance commune. »
C'est-à-dire que dans ce moment Noé, dans cet épisode biblique, il y a deux choses qui peuvent nous rejoindre. C'est à la fois de voir cette désolation, de voir que la méchanceté a gagné la création, de voir que on s'est cru être indépendants les uns des autres. Et ce qui nous montre, ce que cette histoire nous montre aussi, le deuxième versant, on peut voir que notre voie de salut, c'est privilégier les liens, de renouer avec les relations, d'avoir ce temps dans l'arche où les uns et les autres, dans leurs différences, peuvent se retrouver, de retrouver notre appartenance commune, retrouver notre appartenance à Dieu. L'histoire, le moment Noé, c'est de voir qu'est-ce qui nous a conduit à la destruction, mais aussi voir tout ce qui peut nous conduire à la reconstruction. Et l'idée clé, c'est aussi celle de la création. Dieu a créé le ciel et la terre, et il nous a créés comme participants pour pouvoir créer avec lui. Il dénonce dans le prologue celles et ceux qui disent oui, Dieu a fait le monde, et puis voilà, c'est comme ça, et puis la vie elle est comme ça, et puis on ne peut rien y faire. Et non, comme chrétiens, avec aussi nos frères et sœurs juifs qui partagent, enfin avec lesquels on partage cette théologie de la création, c'est de croire que nous sommes capables, enfin c'est même pas que nous sommes capables, c'est que nous sommes appelés à poursuivre cette création.
Alors, il appelle aussi, comme à une longue pause, pardon de vous couper, la régénération de la société humaine a signifié un retour au respect des limites, donc à propos du moment de Noé, à la restriction de la soif effrénée de richesse et de pouvoir, mais aussi l'introduction du sabbat et du jubilé, pour faire écho donc au judaïsme, a été la clé de cette régénération, donnant le temps à la terre de renaître, aux pauvres de trouver un nouvel espoir, aux gens de retrouver leur âme. Et puis un peu plus loin, je crois, dans l'ouvrage aussi, il parle de jubilé de la terre, Comme si, en fait, il fallait marquer un temps d'arrêt profond, en fait.
Oui, le moment...
Comme prolonger, quelque part, l'arrêt qu'on a vécu pendant le confinement.
Oui, beaucoup ont témoigné des côtés positifs de cet arrêt. Même certains disaient que c'est un grand Shabbat qu'on est en train de vivre. Et c'est vrai que le moment Noé, c'est s'arrêter, se retrouver et réfléchir ensemble, rechercher la paix, puisqu'il y a cette idée aussi dans Noé. Le pouvoir, la grâce de s'arrêter et d'écouter les gémissements. Le pape François fait écho au chapitre 8 de la lettre aux Romains, où la création aspire à voir la révélation des fils de Dieu, où la création gémit, où nous aussi nous gémissons dans nos histoires personnelles, mais l'esprit gémit aussi. Et c'est le même verbe appliqué à la création, à nous-mêmes, mais à l'esprit.
Alors pour ceux qui seraient frustrés, en même temps ça entretient un petit peu, ça fait un peu teasing pour l'émission, le pape François est aussi concret, hein, dans Voir, il parle bien des réalités de nos vies à l'échelle mondiale, et puis ça nous concerne aussi. Donc il y a du très concret, mais on donne surtout quelques aperçus. Il y a un autre passage dans Voir aussi, qui nous aide à regarder nos vies à nous, et le pape François montre l'exemple. Il a une expression pour ça, c'est nos Covid personnels, et il partage avec une grande simplicité trois Covid personnels, donc on entend là trois moments d'épreuve, de grande épreuve, qu'il a vécu lui-même.
Oui, et ce sont trois Covid qui touchent différentes dimensions de notre vie. La première Covid qu'il raconte, c'est lorsqu'il avait 21 ans et qu'on a découvert cette maladie pulmonaire, ce qui rejoint aussi ce qui est lié à la pandémie du Covid, puisque c'est un virus qui attaque les poumons. En tout cas, il a vécu une épreuve qui a touché son corps, dans sa chair, où aussi il s'est laissé faire, laissé consoler. Il parle des infirmiers, des infirmières, et puis aussi d'une sœur qui a été présente, qui n'a pas grandi, qui n'a pas dit grand-chose, mais qui a été présente. Et le pape témoigne de cette consolation qu'il a pu recevoir d'une simple présence. Et puis, le deuxième Covid personnel qu'il relate, c'est un déracinement. C'est lorsqu'il part en Allemagne pour faire des études. Et là, il entre dans un autre pays, il doit rentrer dans une autre langue, dans une autre pensée. Donc c'est aussi se sentir étranger, ce qui permet un décentrement qui est aussi bénéfique. Et c'est là où sans cesse le pape François voit ce qui est mal, en tout cas ce qui est douloureux, et en même temps, c'est un proverbe qu'il cite, là où il y a le danger peut surgir le salut. C'est-à-dire que dans des situations à la fois compliquées, qu'il ne faut pas esquiver, y compris dans la mémoire, ce que fait le pape François, il perçoit des irruptions de bonté. Son expérience. Quand il est en Allemagne, c'est dur, hein, en plus c'est un amateur de foot, c'est la Coupe du Monde je crois, et l'Argentine gagne, et il se trouve qu'il est en Allemagne, quoi. Alors il n'est pas avec les siens, c'est une souffrance, c'est peut-être pour ça qu'il est sensible autant.
En tout cas c'est une épreuve de déracinement, je me sentais comme une cheville carrée dans un trou rond.
Oui.
Et puis le proverbe que vous citez, donc c'est de Friedrich Hölderlin, donc ce poète allemand, et qu'il cite plusieurs fois. Mais là, donc c'est un passage de son œuvre. Mais là où est le danger, croit aussi ce qui sauve.
Oui. Et puis la troisième Covid personnelle est liée à la dimension ecclésiale aussi. La première Covid, c'est lié à sa dimension corporelle, charnelle, personnelle. La deuxième Covid, c'est lié aussi à nos dimensions humaines, des relations sociales. Et puis, il y a des Covid aussi ecclésiales, après tout un temps où il a exercé des grandes responsabilités dans la compagnie des jésuites. Il a été provincial, il a été recteur de séminaire, recteur d'études. Bon, voici qu'il est mis un petit peu de côté.
Mis sur le banc de touche, hein, il a cette expression.
Oui, il aime bien le foot, donc voilà. Et c'est un temps de retrait... peut-être forcé, donc c'est quelque chose de douloureux, et en même temps, il y gagne du temps pour la prière, pour l'étude. Il raconte cette anecdote de la lecture des histoires des papes.
37 volumes quand même, il a eu le temps.
Comme quoi la lecture est bénéfique, et la patience aussi. Et ça fait du bien aussi à nous chrétiens de percevoir des Covid peut-être ecclésial, voilà, où il y a des choses dans l'Église qui nous perturbent, qui nous mettent un petit peu en retrait, et en même temps, le chemin n'est pas fermé.
Ça, c'est le premier chapitre. Voir, choisir, si on s'arrête sur l'un ou l'autre point. Choisir, on s'est dit qu'on allait s'arrêter sur l'aspect discernement. Donc, l'aspect discernement, il y a cette première expression, discerner le réel. Il y a un principe qui mérite d'être rappelé en ces temps. On débat des concepts, mais on discerne le réel. C'est une chose difficile pour ceux qui sont de nature plutôt plus impatiente et qui croient qu'à chaque problème, il doit y avoir une solution technique, dit le pape François, comme s'il s'agissait simplement de trouver le bon interrupteur. Et puis il ajoute, beaucoup de religieux ont aussi du mal à discerner, surtout ceux qui sont allergiques à l'incertitude et qui peuvent tout voir, qui veulent tout voir en noir et blanc.
Quand on traverse une situation difficile, inconfortable, il y a un désir, c'est de pouvoir s'échapper et de trouver un espace où ça sera plus confortable, où ça sera mieux.
Pardon, excusez-moi, je vous coupe, mais de façon à ne pas donner l'impression que je citais de manière mal intentionnée cette citation pour mettre à l'amende les religieux, je finis juste la citation parce que je pense qu'elle nous rejoint tous cette fois. Et c'est tout à fait impossible pour les idéologues, les fondamentalistes et tous ceux qui retenus par un état d'esprit rigide. Mais le discernement est vital si nous voulons créer un avenir nouveau et meilleur.
Et la matière de ce discernement, c'est notre réel dont on aimerait parfois s'échapper, mais qui est le lieu de l'incarnation. Le discernement porte sur notre réel, parce que si on regarde l'imaginaire, enfin en tout cas, ça n'existe pas. Comme dit saint Augustin, demain n'existe pas, c'est juste aujourd'hui qui compte. Et donc de percevoir dans le réel déjà la présence de Dieu, et de s'ouvrir à la vérité qui se cache dans le réel. Un petit peu comme cette parabole racontée par Jésus du trésor, un homme qui cherche dans sa terre, dans son champ, et puis tout d'un coup, il découvre un trésor. Et il rappelle l'étymologie de la vérité, qui est le découvrement, voilà, de pouvoir... chercher la vérité, c'est finalement fouiller dans notre sol, dans notre terre, dans nos relations, dans notre histoire, d'y percevoir les traces de l'Esprit Saint, de nos consentements avec l'Esprit Saint, mais aussi de nos résistances, et de ne pas juger, de juste regarder. Et c'est là tout aussi la tradition ignatienne et des exercices spirituels.
C'est-à-dire
que Ignace, à partir de son expérience, propose à qui veut de poser un regard sur son histoire sans jugement, juste pour voir et voir ses grandes aspirations. Il y a un texte qui ouvre les exercices spirituels qu'on appelle principes et fondements, et je trouve que d'une certaine manière, ce qu'il dit dans la partie choisir nous ramène à ce texte. L'homme est créé pour louer, servir et honorer Dieu. Voilà, le pape rappelle que nous venons de Dieu, que nous allons à Dieu, et que cette bonté nous attire, et que nous devons choisir ce qui peut nous conduire à cette fin pour laquelle nous sommes créés, et aussi discerner ce qui ne nous mène pas à la vie. Alors à chacun de faire sa liste. Chacun, c'est-à-dire soit personnellement, mais aussi un peuple, une communauté, de percevoir les appels de l'esprit. Un des leitmotifs aussi du pape François, et qui rejoint cette idée de relecture de ce qui s'est passé au lieu de se projeter sur ce qui ne s'est pas encore passé, c'est lorsqu'il nous appelle à renouer avec les anciens. Ça, c'est très typique de François, mais c'est très typique des Ignatiens. C'est-à-dire, demain, tu peux pas le maîtriser parce que ça n'existe pas. Mais hier, ça a existé. Il y a de la matière. Et nos anciens sont les témoins de cette histoire-là, grâce à laquelle tu es là aujourd'hui. Donc interroge-les, va les voir, parce que eux-mêmes aussi sont le fruit d'anciens qui. Donc lorsque, eh bien, on accompagne quelqu'un dans sa vie, ce qu'on appelle l'accompagnement spirituel, on va au lieu de se projeter sur l'avenir qui n'existe pas, c'est de repérer ce qui s'est passé avant. Un peu comme dans la voiture, quand on avance, on a toujours un œil sur le rétroviseur, sur ce qui s'est passé derrière.
On pourrait citer aussi à propos du discernement ce passage donc dans ce deuxième chapitre. La voix de Dieu ouvre tes horizons alors que l'ennemi te colle au mur. Là où le bon esprit te donne de l'espérance, le mauvais esprit sème la suspicion, l'angoisse et la culpabilisation. Le bon esprit fait appel à mon désir de faire le bien, d'aider et de servir, et me donne la force d'avancer sur le bon chemin. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour finir de parler et de présenter cet ouvrage en parcourant le dernier chapitre, Agir. Et on dira un mot de l'épilogue et de la postface, avec encore des belles expressions qui sont bien parlantes pour chacun d'entre nous.
Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Un temps pour changer, c'est pour rappel, lecture de Un temps pour changer, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin. Cet ouvrage donc, qu'on a choisi, l'ouvrage du pape François, comme depuis plusieurs années, on prend un de ses textes que l'on parcourt. Là, ça n'est ni une encyclique, ni une exhortation apostolique, mais donc un livre d'entretien avec un journaliste anglais, Un temps pour changer, avec ce sous-titre « Viens, parlons, osons rêver ». Dernier chapitre, donc « Agir », et puis on dira un mot de l'épilogue. Alors, il ne s'agit pas de tout déflorer, mais quand même donc de donner quelques billes dans l'action à laquelle le pape François nous invite, on va dire collectivement et personnellement. Il nous invite, pas de surprise pour ceux qui le connaissent, à partir des périphéries, avec des expressions fortes. Dieu a choisi les périphéries comme lieu pour révéler en Jésus son action salvatrice dans l'histoire. Dieu a choisi les périphéries comme lieu pour révéler en Jésus son action salvatrice dans l'histoire.
Oui, parce que peut-être qu'on avait oublié ce qui était essentiel, encore une expression phare de cette crise du Covid, et qu'on avait peut-être mis des choses qui n'étaient pas essentielles au centre, comme le profit, comme l'argent, comme l'individualisme, comme le bien-être personnel. Et l'Évangile nous propose une voie à contre-courant.
Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il part des périphéries parce que les périphéries, elles, étant privées de tout ça, n'ayant pas pu rentrer dans cette logique, elles ont quelque chose de la vérité de la situation ?
Oui, et que peut-être si nous sommes conduits à cette crise, c'est parce que nous avons mis sur le bord du chemin toutes ces personnes-là. Et à travers elles, en fait, notre humanité. Il commence ce passage, cette troisième partie sur l'agir, en redonnant quelques principes, alors assez étonnants, sur le peuple, sur la dimension communautaire, presque familiale de la société humaine, où le centre, ce sont les personnes qui sont les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus en demande d'humanité, de relations. L'être humain est fait pour vivre en relation.
Il rappelle que c'est eux qui suivaient Jésus, en l'occurrence. Hein.
Oui, et c'est tout le mouvement de Jésus, en fait, qui repart des pauvres, qui repart de ceux qui cherchent la paix, de ceux qui sont affamés et assoiffés de justice. Hein. On entend ici son texte programmatique des Béatitudes, que le pape François relie toujours avec Matthieu 25, « J'étais nu et vous m'avez habillé », qui, voilà, marche ensemble. Quand on se décentre, il le dit aussi, ça nous permet finalement de nous recentrer. Ça paraît paradoxal, mais on en a tous fait l'expérience quand on s'oublie un petit peu soi-même pour se mettre à l'écoute des autres, de regarder ceux qui sont au bord du chemin. En fait, on gagne en humanité et on traverse une crise. On sent bien que la jeunesse qui traverse ces moments-là, elle perçoit que effectivement il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut changer. Voilà, le temps est venu pour changer et pour ne plus se fermer les yeux. Et il emploie cette expression hein, de la brique et de l'ouvrier, c'est-à-dire qu'est-ce que avec la tour de Babel, qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est la brique qui compose la tour, ou est-ce que c'est l'ouvrier qui pose cette brique ? Or, on sent bien que ce qui était le plus important, c'était la brique, c'était construire, c'était et on oubliait presque que ce qui avait le plus de valeur, c'était quand même l'être humain. Et donc, il repart dans cette dynamique.
Confère les métiers invisibles aussi qui sont réapparus à l'occasion du confinement. Je vous coupe juste pour citer un passage. Il laisse entendre donc, que la foule qui suivait Jésus n'était autre que ses périphéries. En leur apportant cette proximité dans sa façon de parler, de toucher et de guérir, Jésus a montré que cette prise de conscience était réelle. Il leur a ouvert un chemin d'espoir vers l'avenir, un chemin de libération qui n'était pas seulement politique, mais quelque chose de plus. Une libération humaine qui leur a conféré cette dignité que seul le Seigneur peut nous donner. Et puis, on aurait bien d'autres passages à citer, mais le temps passe. Est-ce qu'on peut dire un mot de l'épilogue, peut-être ?
Oui, et puis, pour faire un lien avec ce que vous venez de dire, Jésus choisit 12 apôtres. Les 12 font référence aux 12 tribus d'Israël, donc ça nous ramène à l'histoire de Joseph que je vous racontais au tout début. Comme si Jésus rêvait que cette fraternité était possible en choisissant 12 apôtres comme les 12 tribus qui en fait sont les 12 frères. Ce sont 12 frères. On peut voir en Jésus un doux rêveur mais qui croit que la fraternité est possible.
Ah oui, alors cette expression de fait, vous faites bien de m'arrêter, la fraternité comme nouvelle frontière.
Oui. Et cette phrase peut nous servir de méditation parce que cela rejoint aussi un appel qui peut se synthétiser dans cette expression, il faut renouer avec le nous, voilà, de prendre conscience de notre appartenance à la famille humaine. En grec, nous, c'est l'intelligence. Donc, voilà, peut-être que on doit chercher l'intelligence dans le nous, dans nos relations. Voilà pourquoi aussi il embarque l'Église dans ce processus synodal. En tout cas, c'est pas lui, hein, c'est toute l'Église qui est embarquée dans cette histoire-là, parce que ça s'enracine dans le rêve de Jésus de croire qu'on peut atteindre la terre promise uniquement en tissant ces liens de fraternité. D'ailleurs, voilà, c'est ce qui sera vécu lorsque les 12 tribus vont entrer dans la terre promise. Josué envoie un membre de chaque fraternité. Donc en fait, les premiers à atteindre la terre promise, ce sont 12 hommes. Donc on peut croire qu'on va atteindre cette terre promise uniquement par la fraternité.
Si nous voulons sortir meilleurs de cette crise, dit le pape François, nous devons reprendre conscience qu'en tant que peuple, nous avons une destinée commune. La pandémie nous a rappelé que personne ne peut se sauver seul. Alors dans l'épilogue, il y a encore deux, trois, on va dire, j'allais dire deux, trois billes ou deux, trois traits forts qui nous dit le fond du propos de cet ouvrage. Deux mots, décentré, transcendé. Se décentrer et transcender. Alors c'est là où le pape François est presque le plus personnel. Dans l'épilogue, il dit même les choses suivantes. On pourrait se demander, et maintenant, que dois-je faire ? Quelle pourrait être ma place dans cet avenir et que puis-je faire pour le rendre possible ? Donc le pape François va jusqu'au bout de sa réflexion et puis s'adresse, donc il tutoie le lecteur. Laisse-toi entraîner, secouer, défier. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet épilogue qui essaye de prendre par la main le lecteur ?
Eh bien, c'est que cette crise, elle a des répercussions dans le monde entier, mais peut-être parce qu'elle me touche à moi d'abord personnellement. Et donc, peut-être de s'asseoir et de voir comment j'ai été touché par cette crise. Moi, je rêve que les paroisses puissent organiser ces lieux juste de rencontre pour qu'on s'assoie autour d'une table et après ces confinements successifs et de se dire, mais qu'est-ce que vous avez vécu et aussi de percevoir qu'est-ce qui nous a sauté aux yeux, qu'est-ce qui nous a manqué, qu'est-ce que nous croyons être le plus essentiel, y compris dans nos communautés chrétiennes. Le danger, ça serait de vouloir revenir à ce qui s'était passé avant. Ça, le pape insiste pour dire que c'est impossible, et d'ailleurs c'est toute la dynamique de l'histoire du salut, de ne jamais regarder en arrière, mais de s'élancer à la suite aussi de celui qui nous précède. Oui, c'est un appel personnelle à reparcourir chacun notre histoire, voir qu'est-ce qui a été touché, et aussi de pressentir aussi ces aspirations de l'Esprit-Saint en nous. Et là aussi, de nous asseoir autour d'une table et de pouvoir échanger sur ce que l'Esprit peut susciter en nous. Je trouve que c'est un appel très personnel. La crise, on ne va pas sortir de la crise autour de la table de l'ONU, ou comme il le dit souvent, mais on pourra sortir de la crise si chacun est impliqué, mais aussi impliqué dans les relations.
Laisse-toi entraîner, secouer, défier, ce peut être grâce à quelque chose que tu as lu dans ces pages, peut-être grâce à un groupe de personnes dont tu as entendu parler aux infos ou que tu connais dans ton quartier, dont l'histoire t'a ému. Ce sera peut-être un foyer de personnes âgées, un centre d'accueil de réfugiés, un projet de régénération écologique qui t'appellera, ou peut-être des personnes plus proches de chez toi qui ont besoin de toi, dit entre autres le pape François. Et puis peut-être cette dernière citation: lorsque tu sentiras le déclic, arrête-toi et prie. Lis l'évangile si tu es chrétien, ou crée simplement un espace en toi pour écouter. Ouvre-toi, décentre et transcende. Merci Arnaud Franck d'avoir ouvert le bal pour cette lecture qui, on l'espère, portera du fruit pour nos auditeurs au long de cette année. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Un temps pour changer, paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci.
À la technique, Christophe Aubry. Vous pourrez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.